Blanche, l'invité de France Inter, du journal Le Monde et de France Info jusqu'à 13h. Il faut la compter parmi les soldats de l'an 1. C'est elle qui a lancé et au pas de charge les toutes premières réformes de l'ère Macron. Des réformes dont les Français peinent à voir les résultats pour eux dans leur vie quotidienne. Et c'est donc elle que nous voulions entendre à un moment important, peut-être même un tournant du quinquennat. La ministre du Travail, Muriel Pénicaud, vient de s'installer au micro et devant les caméras de questions politiques pour intervenir. Chers auditeurs, l'application France Inter ou sur Twitter avec le mot-clé Question Paul.
France Inter, question politique, Ali Badou.
Bonjour Muriel Pénicaud.
Bonjour.
Et bienvenue, merci d'être avec nous à mes côtés pour vous interroger. L'équipe de questions politiques, Jeff Wittemberg de France Télévisions. Bonjour Jeff.
Bonjour Ali.
Françoise Fressoz du journal Le Monde. Bonjour Françoise.
Bonjour Ali.
Et Karine Bécard de France Inter. Bonjour Karine.
Bonjour à tous.
Karine qui fera votre portrait Muriel Pénicaud dans quelques minutes. Première question, qu'on s'y intéresse ou pas, on ne sait toujours rien du remaniement, mais on sait au moins une chose, c'est que vous serez toujours ministre, quoi qu'il arrive.
Vous en savez plus que tout le monde?
Je crois.
On aimerait bien.
Quand on vous a invité, ça fait des semaines, pas un moment vous n'avez pensé annuler malgré les incertitudes, malgré les rumeurs. J'en suis ravi, mais c'est quand même un signe.
Mais vous avez vu que le gouvernement est en pleine action.
Oui.
Je crois qu'il faut... On fait beaucoup de bruit autour de la date du remaniement, mais il faut bien se dire une chose, c'est que... Vous savez, moi je suis ancienne DRH.
Oui.
Et quand on choisit quelqu'un pour une équipe à haute responsabilité, on prend le temps de choisir la personne... mais aussi de choisir la personne dans une équipe.
Bien sûr.
Et je crois que l'époque, il y a une époque, on faisait les assemblages de gouvernement, vous savez, tant de pourcentage de courant, etc. On voit ce que ça donne, hein, le Parti Socialiste, les courants deviennent des micro-courants, et puis ça collapse. Là, maintenant, on cherche des compétences qui s'intègrent en complémentarité dans une équipe. Le président de la République et le Premier ministre
mais
prennent leur temps, je trouve ça très bien.
Mais 10 jours pour trouver des compétences, non. Que c'est quand même un peu...
Non, pour, je pense que trouver les compétences et la complémentarité dans une équipe, sachant qu'en attendant, on est au travail.
Évidemment, mais vous auriez dû commencer par ça. Vous auriez dû dire d'emblée que le remaniement était une affaire importante, que ça demandait du temps et qu'il fallait être patient.
Il y a eu
une erreur de communication.
Vous êtes drôle.
C'est le président qui fait les péripéties.
C'est drôle, vous faites les éléments de langage pour les ministres.
Exactement.
On les connaît par cœur, on les entend en
permanence. Pas tous en même temps. Il y a eu une erreur de communication, avouez-le.
Non, pas du tout. Il y a deux choses qui sont vraies. Un, c'est que c'est pas comme s'il n'y avait pas de gouvernement. Le gouvernement est au travail. Et en même temps, je pense qu'il faut prendre le temps. Mais, par exemple, cette semaine, on parle beaucoup du remaniement. Mais qui a dit que la loi Pacte pour les entreprises avait été votée à l'Assemblée nationale?
Nous,
qui
on
a dit que la
l'heure.
Loi Fake News avait été votée? Donc, Bruno Le Maire, François Cessène, ils ont eu leur loi votée cette semaine. Qui a dit que François de Rugy, avec tous ses collègues européens, ils ont adopté une mesure qui va permettre de réduire de 35%, si c'est adopté par le Parlement, les émissions de CO2 des voitures? Et moi, j'ai lancé de la prépa apprentissage pour
déjà
y
accéder. Mais alors pourquoi remanier? Pourquoi remanier, puisque ça fonctionne très bien avec des postes vacants? Karine Bécard.
On a quand même envie d'essayer de comprendre qu'est-ce qui bloque, en fait. On a l'impression qu'on est quand même dans une impasse, c'est-à-dire qu'il y a peu de recrues politiques autour d'Emmanuel Macron, dans la Macronie. On a l'impression que la société civile court moins après Emmanuel Macron, contrairement à ce qui s'est passé il y a 18 mois. Donc, on a l'impression d'être quand même dans une espèce d'impasse, on a l'impression de toucher les limites du macronisme.
Il n'y a pas d'impasse du tout, mais je comprends que pour les commentateurs, c'est dur d'avoir 10 jours sans nouvelles.
Oh non.
Il n'y a pas que nous qui nous impressionnons. Chez En Marche, par exemple, le président de l'Assemblée nationale dit il faut un nouvel élan. Et il dit il faut insister sur protéger, unir, comme si finalement le macronisme du début, ça a été surtout libéré. Est-ce que vous partagez ce sentiment qu'il faut rééquilibrer la politique ou alors, est-ce que vous pensez qu'il faut continuer comme avant?
Alors, je pense qu'il faut continuer à dérouler pleinement le programme, qui est le programme du président de la République et de la campagne présidentielle. Et dans ce programme, il y avait bien ce qu'on appelle aujourd'hui libérer, protéger, unir. On ne peut pas faire toutes les réformes à la fois. On nous dit déjà qu'on en fait beaucoup. Donc, on a commencé par certaines réformes qui vont avoir des effets pas immédiats, mais qui sont très importants pour créer de l'emploi. Parce que la solidarité suppose la prospérité. Et la prospérité, ça suppose du développement économique. C'est pour ça que les ordonnances, et je voudrais dire qu'aujourd'hui, on a un premier effet. Moi, je vais partout sur le terrain tout le temps. Que disent les TPE, PME?
On a pu parler de la loi libérée.
Et même toutes les lois, mais le plan pauvreté, les mesures sociales, tous ces sujets-là sont enclenchés. Simplement, il faut dérouler tout l'agenda économique et social. Et donc, il faut continuer à dérouler cet agenda. Pour moi, c'est pas une inflexion, mais il faut que l'ensemble du programme, maintenant, soit visible de l'ensemble des Français.
Il y a encore une question. Si on en croit les sondages, ne perçoivent pas encore les effets de la politique que vous, notamment, avez lancée. Le gouvernement, le président sont globalement impopulaires. Or, aucun remaniement n'a jamais redressé la côte d'un pouvoir qui est installé dans l'impopularité, comme c'est le cas aujourd'hui. Et si ce n'est pas le cas de ce remaniement, à quoi sert-il au fond? Comme disait Ali Badou, pourquoi remanier aujourd'hui? C'est quand même la question de base.
Déjà, il faut... Le Premier ministre assure avec talent les deux rôles de Premier ministre et de ministre de l'Intérieur. Enfin, c'est deux jobs à temps plein, donc c'est la raison numéro un. Mais je reviens à ce que vous évoquez, parce que c'est très important. Je comprends, et nous comprenons la patience des Français. Ils ont élu Emmanuel Macron et les députés de l'Assemblée nationale sur un programme qui est radicalement quand même en rupture avec ce qui se faisait avant. Et simplement, c'est un programme structurel. Ça veut dire quoi? Qu'on réforme de fond le pays pour permettre cette prospérité, cette solidarité, cette émancipation. Et c'est vrai qu'il y a des premiers résultats, on va pouvoir en parler, j'espère.
Évidemment,
mais
juste après votre portrait.
Les premiers résultats, ils vont mettre 2-3 ans. Et ça, je comprends la frustration. Tout le monde voudrait que ça aille plus vite. Mais on ne fait pas de cache-misère, on ne fait pas semblant. On fait des travaux de fond qui vont nous permettre, pour que les Français, ça aille mieux en France, et pour la France, et pour les Français.
Mais vous avez quand même essuyé en un mois la démission de deux ministres d'État, dont un, Nicolas Hulot, disait « Je me suis senti tout seul au gouvernement pour essayer de faire la transformation écologique ». Vous l'entendez ou vous dites au fond c'est une posture et une partie de la gauche ne croit plus à ce qu'on fait ?
Alors, avec Nicolas Hulot, pour donner un exemple très concret, moi j'ai travaillé sur les emplois verts. À travers le plan d'investissement compétences, on a investi 10 000 formations dans les emplois verts. On estime à 350 000 les emplois possibles grâce à cette révolution. C'est un exemple.
Donc vous,
avec François Drugy, on va continuer et amplifier ce mouvement.
Non, mais vous
donc
n'enlèverez pas les larmes d'impuissance et la rage de Nicolas Hulot quand il a quitté le gouvernement sur un constat accablant malgré tout.
Oui, qui est son bilan aussi.
Qu'il c'est a pas... problème de perception.
Non, mais moi je connais Nicolas Hulot depuis des années, bien avant le gouvernement. C'est quelqu'un qui est... c'est une vigie du futur, Nicolas Hulot.
Il n'était pas adapté pour être ministre.
Non, mais je pense qu'il y a des gens qui sont heureux comme ministre et il y a des gens qui sont moins heureux. Parce que pour être ministre, il faut à la fois partager évidemment la vision long terme du président de la République, du Premier ministre, et accepter que ça se construit brique par brique.
Vous avez l'air heureuse, Muriel Pénicaud. Et justement, il est temps de savoir et de comprendre pourquoi, grâce à Karine Bécart. Votre portrait, c'est maintenant.
Muriel Pénicaud, vous êtes plutôt flexible politiquement parlant. Ce qui est, c'est vrai, assez classique pour une ministre macroniste. Vous avez d'abord été, il faut le rappeler, conseillère de Martine Aubry quand elle était ministre du Travail, comme vous l'êtes aujourd'hui. Ce qui ne vous a pas empêché, sous la présidence de Nicolas Sarkozy, d'accepter une mission sur le stress des salariés, confiée cette fois par François Fillon. Et puis, vous n'avez pas dit non, quand les socialistes sont revenus au pouvoir, vous n'avez pas dit non à Arnaud Montebourg, qui vous a sollicité pour relancer l'industrie en France. Bref, à chaque fois, vous y êtes allés, sans vous demander finalement pour qui vous deviez travailler. Ce pragmatisme, en réalité, Muriel Pénicaud, vous l'avez visiblement intégré très tôt, parce que très jeune, c'est un détail, mais il est important, vous avez refusé systématiquement toutes les grandes écoles auxquelles vos origines, a priori, vous destinaient. Non, vous, en jeune femme rebelle, vous avez préféré l'université et mélangé histoire, sciences de l'éducation, psychologie aussi, et vous avez décidé de commencer votre carrière professionnelle tout en bas de l'échelle, pour regarder sans doute, pour observer, et puis vous avez grimpé dans le public d'abord, vous devenez relativement vite une spécialiste des questions de formation, petit passage, on l'a dit, chez Martine Aubry, nouvelle vie, enfin, nouvelle relation, et vous basculez juste après cela dans le privé. En fait, vous n'avez jamais cessé de bouger, Muriel Pénicaud, vous avez toujours cherché à bousculer et à avancer.
Moi, j'ai un style direct, avec les avantages et les inconvénients. L'avantage du style direct, c'est que c'est toujours sincère. Et il n'y a pas de faux-semblants, il n'y a pas d'agenda caché.
Et quel est l'inconvénient du style direct? Alors, c'est dommage parce que vous ne l'avez pas précisé. Peu importe. Quand vous vous exprimez, là, vous avez déjà été nommé ministre du Travail depuis 3 mois exactement. Vous n'êtes donc plus la directrice de l'agence Business France qui a organisé cette très coûteuse soirée à la French Tech en l'honneur du ministre à l'époque, Emmanuel Macron. Et vous n'êtes plus non plus la directrice des ressources humaines du groupe Danone qui avait osé revendre ses actions avant de remercier des centaines de salariés pour une assez juteuse opération. Vous disiez style direct, Muriel Pénicaud, votre efficacité n'est peut-être pas toujours le signe d'une parfaite clarté. En tout cas, avec votre réforme du code du travail, votre réforme de l'apprentissage, avec votre réforme de la formation professionnelle, vous avez incontestablement marqué le paysage social français. Mais l'a-t-il été en faveur des employeurs et en même temps des employés? Pour l'instant, il est hélas bien difficile, me semble-t-il, de le mesurer.
Réaction, Muriel Pénicaud.
Alors, je voudrais ajouter 2 choses. C'est quoi mon fil rouge? Moi, j'ai jamais eu de stratégie de carrière. Je respecte tous ceux qui en ont. Mais je suis toujours allée là où je voulais. Je suis passionnée par l'impact social, collectif qu'on peut avoir. Je crois qu'il n'y a pas de fatalité aux choses. Et je crois qu'on peut transformer collectivement la société. Alors, avec 20 ans, c'était le slogan « Changer le monde ». Bon, on est devenu un peu plus modeste, mais plus déterminé peut-être encore.
Changer la vie.
Changer la vie, changer le monde. Moi, j'étais dans cette culture-là. J'étais à Nanterre, à l'université. Donc, j'étais
complètement à Nanterre. Ouais.
Mais par contre, il y a un fil rouge qui m'a habité très vite. C'est, je suis persuadée que pour vraiment réussir à collectivement notre vie, notre vivre ensemble, il faut relier le social et l'économique. Moi, j'ai commencé en dirigeant une mission locale et en étant administrateur territorial, pas du tout pour regarder, pour faire, pour changer, pour agir dans ce domaine-là. Mais déjà, pour insérer des jeunes, déjà il y a 30 ans, puisque je dirigeais une des premières missions locales, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai réuni les employeurs et je leur ai dit « qu'est-ce que vous pouvez faire pour les jeunes ?» Finalement, c'est ce que je fais aujourd'hui.
Oui, mais il y a des choses
surprenantes. Tout ce que j'ai fait, parce que c'est cette ligne de rouge économique et sociale. J'y crois, mais profondément.
Alors, je l'ai lu très souvent, effectivement, dans d'autres portraits pour préparer le mien. Conjuguer comme ça effectivement l'économique au social et en même temps parfois vous faites des choses très surprenantes comme vous augmentez par exemple de 30% dès que vous arrivez à Business France.
Non, mais c'est quoi ça, c'est allié? Vous avez, alors sur la partie Business France, je vais faire très vite. Un, je me suis jamais augmenté. D'ailleurs, c'est décidé par les ministres, l'augmentation. J'ai divisé par 5 ma rémunération pour entrer dans le secteur public.
Parce que vous arriviez des RH de Danone.
Okay. Je me suis jamais augmenté. 2, c'était pas une soirée pour
ça, c'est autre chose.
Ministre. Non mais il y a, vous savez, des approximations.
Je suis pas sûr que tous ceux qui nous regardent ou qui nous écoutent comprennent.
Je vais vous dire, ça fait 15 mois que j'entends en permanence des choses qui sont un peu fausses, mais qui créent un halo. Alors, je le dis tout net,
voilà.
Il y a les choses. Il y a eu un problème chez Business France qui ne relevait pas de moi. Je m'en suis aperçue, j'ai fait l'alerte. Il y a une procédure en cours. Je suis témoin assisté, j'ai confiance dans la justice. Mais vous voyez, c'est difficile quand on déforme ce que vous dites. Et on a jamais revendu des actions après avoir fait un plan social. C'est 2 sujets complètement différents.
C'est légal.
La rémunération long terme, non, pas que légal.
Bon, vraiment, je pense que personne ne comprend rien. Il faudrait faire un gros travail de pédagogie pour expliquer ce qu'est Business France et ce que vous avez fait ou pas fait.
Permettez-moi, quand dans un portrait on dit quelque chose, je dis juste que ce n'est pas l'objet ce matin. Mais que cette partie-là n'est pas tout à fait exacte.
Alors, parlons de l'impact social d'une politique. Vous parliez de vos ambitions de jeunesse, changer la vie, changer le monde, que vous étiez plus modeste aujourd'hui. Vous avez forcément lu ce dossier publié par le journal Le Monde cette fin de semaine qui fait le bilan de la politique fiscale et sociale des 2 premières années de l'ère Macron. Vous avez vu ce graphique qui montre que les ultra-riches en sont les grands gagnants. On voit que le pouvoir d'achat du 1% des ménages les plus riches de France avait augmenté de 6%, et qu'en revanche, le pouvoir d'achat des 20% de Français les plus modestes avait baissé.
Alors,
c'est juste?
Alors, c'est une analyse de l'Institut des politiques publiques qui prend en compte le projet de loi de finances. Il ne prend pas en compte toute l'action du gouvernement. Je vais être un petit peu précise là-dessus. Le premier sujet, ça montre que effectivement, dans le projet de loi de finances, ça va permettre d'augmenter le pouvoir d'achat des classes moyennes et populaires, notamment grâce à la suppression de la taxe d'habitation progressive. Et donc là, on en parlera peut-être, mais c'est en moyenne 200 euros de moins maintenant. Et ça va être complètement annulé pour 80% des actifs. La deuxième chose, pour ceux qui travaillent, sont gagnants aussi, puisque les actifs qui travaillent, grâce à la suppression complète des cotisations d'assurance chômage et maladie, vont gagner plus et gagnent plus. Là, au mois d'octobre, il y aura 15 euros de plus. Il y a eu 20 euros de plus au 1er janvier au niveau du SMIC, 35 euros par an, plus de 400 euros au niveau du SMIC, et c'est valable pour tous les niveaux.
Ouais, non,
donc,
mais
ensuite, il
Muriel Pénicaud,
les 1%, j'y viens aux 20%.
Oui, justement, parce que vous parlez de ce salarié au SMIC qui devrait voir ses revenus augmenter de 32 euros par mois, qui va voir.
35.
Alors, dans ces cas-là, regardons aussi ce que la flat tax et la suppression de l'ISF va avoir comme conséquence, enrichir le 0,1% des Français les plus riches de 86 000 euros en moyenne.
L'ISF a été transformé en un impôt sur la fortune immobilière. Le but, quel était le but? Ça a été annoncé et ça a été assumé dans la campagne. Il faut qu'on ait plus d'investissements productifs en France. Vous savez qu'au niveau industriel, par exemple, maintenant on est au niveau du Royaume-Uni, qui a beaucoup désindustrialisé. On a besoin de l'industrie.
Non, d'accord, mais je ne dis pas avec le recul que le coût politique de la suppression de l'ISF était énorme.
Je dis qu'il faut à un moment donné que les investissements, que ceux qui ont des capacités financières dans ce pays, ils n'aillent pas les mettre dans d'autres pays.
Donc vous assumez que les ultra-riches sont les grands gagnants de ces deux premières années.
Ce que ne montre pas cette enquête, c'est les effets. Ce qui sera important de voir, c'est qu'effectivement, est-ce qu'ils ont investi en France avec cette capacité nouvelle? On n'a pas encore le recul, parce qu'il n'y a même pas eu encore l'année complète. Et est-ce que du coup, ça crée des emplois? Parce que pourquoi on l'a fait? C'est pour redémarrer la dynamique économique.
Le moment d'aujourd'hui est compliqué pour vous parce qu'on ne voit pas les résultats. Donc
on en voit certains, mais pas encore assez.
C'est un pari. Et donc, aussitôt, vous avez quand même une impopularité parce qu'il y a un sentiment d'injustice profond, injustice fiscale, de dire finalement, on fait toujours payer les mêmes. Et ça, est-ce qu'il faut le corriger ou est-ce que vous assumez en disant, on va demander aux Français d'être patients?
Ce que l'étude ne montre pas aussi, c'est tout ce qu'on fait pour la lutte contre la pauvreté, parce que ça ne s'analyse pas aux mêmes endroits que ce qu'ils ont observé. Ce qu'on fait, le reste à charge, par exemple, on n'aura plus à payer, et ça va beaucoup toucher les retraités, les personnes malades, mais aussi tous les citoyens, les plus modestes. On va plus avoir payé le reste à charge pour les lunettes, pour le dentaire, pour les prothèses auditives. Bon, ça, c'est pas compté dedans. Ce qui est pas compté dedans,
c'est la baisse du pouvoir d'achat pour les 20% de Français les plus modestes, Muriel Pénicaud. Ils en avaient trop.
Non, mais tout ça, ça va augmenter le pouvoir d'achat. Je dis qu'ils n'ont pas tout mesuré. Ils n'ont pas mesuré les plans de lutte contre la pauvreté. Ils n'ont pas mesuré que quand on forme des jeunes apprentis qui deviennent compagnons, qui deviennent chefs d'entreprise, ils sortent de la pauvreté aussi. Donc tous ces aspects-là ne sont pas mesurés. Donc je dis qu'ils mesurent certaines choses et pas d'autres, que c'est un travail de longue haleine, et qu'à travers le plan pauvreté, le plan santé, et le plan d'investissement
le plan pauvreté, pour l'année prochaine, hein, c'est toujours des annonces du président de la République.
Ah, c'est plus que des annonces, c'est des engagements maintenant.
C'est des engagements
pour 2020, dans les années ultérieures, et donc on voit pas les résultats. Vous engagez...
On peut pas, vous savez, réformer toute la France en un an.
Mais vous engagez à dire aux Français, voilà, à partir de telle année, vous aurez des résultats. Quelle est l'année clé pour vous?
Ça dépend des sujets. Je prends le sujet du chômage, qui me concerne directement. On est passé de 9,7% à 9,1% de chômage en un an. C'est encore énorme. C'est encore énorme.
Et avec l'objectif de 7%.
Mais on a l'ambition d'essayer d'aller à 7%. Mais déjà, depuis 18 mois, on a plus créé d'emplois qu'on a créé les 10 dernières années. Ça commence par ça. Il faut d'abord relancer la machine économique. Donc, on crée plus d'emplois. Maintenant, il y a un employeur qui dit « Oui, mais maintenant, je suis prêt à créer des emplois. » Mais dans un cas sur deux, je trouve pas les compétences. C'est tout ça qu'il faut dérouler. Donc je comprends la patience. Je veux vous dire, je la partage.
Mais est-ce que vous avez des engagements pour rassurer les Français? Parce qu'en fait, c'est aujourd'hui ce qu'ils demandent. Quand est-ce que ça va marcher?
Alors d'abord, il y a des engagements immédiat, qui est pour les plus vulnérables. On augmente l'allocation adulte handicapé, on augmente le minimum vieillesse, on augmente le RSA. Donc ça, c'est immédiat. Ensuite,
mais ça apparaît comme des gouttes d'eau hein, pour les Français.
Ah bah c'est pas pour des sommes concernées, je peux vous dire. 100 euros de plus quand vous êtes au minimum
vieillesse. 35 euros de plus quand on parlait tout à l'heure des gens qui sont
au SMIC. 35
euros quand vous êtes au SMIC, 400 euros sur l'année. Eh bien, peut-être pour vous que c'est pas grand-chose, mais je peux vous dire qu'il y a des gens pour lesquels ça compte beaucoup. Hein.
Pardon, Madame Pénicaud, vous disiez tout à l'heure que justement les cadeaux fiscaux, on peut les appeler comme ça, faits aux plus riches, devaient permettre une contrepartie que ceux qui ont des fortunes ne les mettent pas à l'étranger, créent des emplois. Est-ce que vous ne craignez pas un effet CICE, comme on l'a connu du temps de François Hollande, où là aussi il y avait des promesses d'embauche? On se souvient du pins du patron du MEDEF, et ces embauches, on les a jamais vues. Et je voudrais juste vous citer une anecdote que j'ai vécue à la station F, le rendez-vous des start-up mardi avec le président Macron. On a entendu un entrepreneur dire « Notre ennemi, c'est l'URSSAF », c'est-à-dire l'organisme qui paye les cotisations patronales, comme si pour certains patrons, il n'y en avait jamais assez. Les cadeaux, c'est jamais suffisant, et tout ce qui peut protéger les employés, finalement, eh bien, il faut le changer, quoi.
Alors moi, je vais vous raconter un autre fait. Il y a quelques semaines, le président de la République a réuni les 100 plus grands patrons en France. Et il leur dit « Maintenant, qu'est-ce que vous faites pour l'inclusion ?» Parce que les premiers de cordée, il faut que tout le monde, la cordée avance, hein, sinon la cordée n'avance pas. Eh bien, on est en train de travailler avec tous ces chefs d'entreprise. Moi, je connais bien parce que j'ai travaillé ces dernières années, donc j'en vois beaucoup qui sont prêts à se mobiliser. Je vais vous donner un exemple. La semaine dernière, dans le cadre du plan de lutte contre la pauvreté, j'ai fait une quinzaine de visites de terrain sur tous les dispositifs d'inclusion que mon ministère met en place. Et dans mon budget, je les augmente fortement. Je suis allée dans les écoles de production. Ça, c'est pour les jeunes décrocheurs, 15-17 ans. Mais alors, vraiment fâchés avec l'école. On les met en vraie situation de travail, dans un atelier spécifique. Il y en a 9 sur 10 qui trouvent un emploi en prêt. C'est financé par les entreprises. C'est Total, c'est Norauto.
J'ai vu des entrepreneurs y aller.
Là, on leur a demandé, les jeunes dans les quartiers prioritaires de la ville, ils n'ont pas accès au stage en troisième. Pourquoi ? Parce que souvent, c'est les parents qui trouvent les stages. On leur a demandé, on va faire une bourse au stage pour qu'ils mettent le pied à l'étrier, pour qu'on aide ces jeunes. Dans l'apprentissage, on mobilise toutes les entreprises. C'est ça.
Mais là, c'est une accumulation de réformes. Qu'est-ce que vous avez demandé, très simplement, au MEDEF et aux entreprises, Muriel Pénicaud ?
Des forces vives économiques.
Quelle mobilisation, d'accord, mais qu'est-ce que vous avez demandé au MEDEF en termes d'emplois créés en contrepartie des milliards d'euros qui sont alloués aux entreprises dans le budget?
Je pense que faut faire mieux que ça, parce que on avait vu le coup d'épine, ça n'avait pas marché, je suis d'accord. Donc,
vous leur avez pas demandé d'engagement?
Ah non, plus. On leur a demandé leur engagement, mais c'est eux qui s'engagent sur des chiffres. Donc, par exemple, sur la réforme de l'apprentissage, l'artisanat, mais c'est eux-mêmes qui donnent le chiffre. On leur a pas dit, ils ont fait un plan d'action, pas des phrases en l'air, pour avoir plus 60 000 apprentis. Le Conseil national de l'industrie, plus 20 000. Les travaux publics, j'étais la Fédération des travaux publics il y a quelques jours, ils s'engagent aussi à augmenter de 40%
leurs apprentis. Donc vous n'avez pas d'objectif.
Et ça, c'est des entrepreneurs de terrain. Moi, le résultat, ça sera un cumul d'engagement. Vous savez, mais Muriel Pénicaud, un processus d'engagement, pas de déclaration, d'engagement.
Mais Madame Pénicaud, ça fait cinq ans qu'on est dans une politique de l'offre, c'est-à-dire une politique en direction des entreprises. Il y a eu le CICE, on en parlait tout à l'heure. Sous Hollande, il y a eu également le pacte de responsabilité. Il y a eu la loi Macron. Il y a eu la loi El Khomri. Depuis que vous êtes arrivé au gouvernement, il y a les ordonnances sur le marché du travail, sur le code du travail.
Par exemple, le droit au télétravail, c'est pour les salariés.
Et donc, on a envie de dire, voilà, ça fait 5 ans qu'on est dans cette politique de l'offre. Qu'est-ce qui a changé pour les Français? Quel est le bilan de ces 5 années? Est-ce qu'on est certain d'être sur le bon chemin?
Le bilan, on est toujours à 9% de chômage. On peut pas dire qu'il soit extraordinaire. Donc, on s'inscrit pas, je sais pas si vous avez remarqué, dans la continuité des 5 dernières années.
C'est quand même une politique de l'offre.
Il faut travailler sur les deux sujets. Moi, je crois beaucoup qu'il faut travailler sur les freins qui empêchent le développement. Par exemple, dans mon domaine, demain, c'est la bataille des compétences partout dans le monde. Les entreprises qui vont réussir, les pays qui vont réussir, c'est ceux où il y a l'élévation des compétences. Mmh. Tout le monde le voit, hein. Dans votre métier, vous le savez bien, l'intelligence artificielle, le big data, c'est en train de bouleverser tous les métiers. J'étais aux artisanales de Chartres, vendredi, 90 000 personnes qui viennent. Qu'est-ce qu'ils disent les artisans? L'Internet, ça change notre métier. Il n'y a pas de métier qui n'ait pas changé. Si on investit à fond ce qu'on fait dans l'éducation nationale, ce qu'on fait dans le plan d'investissement compétences, pour former tout le monde, crée un droit à la formation.
Premier bilan, Muriel
dans
Pénicaud,
la loi,
on
l'avenir
vous écoute,
professionnel,
mais...
on a créé un droit qui va arriver au 1er janvier concrètement pour les gens, mais on est le premier pays au monde à faire ça. Chacun des 26 millions d'actifs, là, tous les salariés qui nous entendent, ils vont avoir le droit, en plus de ce que font leurs entreprises, à choisir leur formation. Ils recevront 500 euros par an, 800 euros s'ils n'ont pas de diplôme. Ça, c'est une nouvelle liberté.
Mais vous avez lu le journal du dimanche, vous avez lu formation, les ratés d'un plan à 15 milliards d'euros, où on peut lire que le plan d'investissement dans les compétences dont vous parlez et que vous avez lancé pour aider les personnes les plus en difficulté à retrouver un emploi, que ce plan ne marche pas puisque les plus éloignés de l'emploi ne sont pas attirés par ce plan d'investissement dans les compétences.
On a voulu faire express, qui, différemment de ce qui avait été fait avec les plans 500 000 de François Hollande qui n'ont pas marché. Pourquoi ? Parce que si vous mettez plein d'argent à toute vitesse dans les organismes de formation, vous ne montez pas en qualité. Donc on a fait un plan modeste pour 2018 qui monte en puissance à partir des années suivantes.
Donc ça ne marche pas, mais c'est confié, normal.
Non, on a négocié avec les régions.
Mais vous mettez quoi dans monter en puissance ? Ça veut dire quoi ?
Je vous explique. On a négocié avec les régions et les régions nous disent maintenant on a du mal à trouver les clients, mais peut-être qu'on a mal fait l'offre, peut-être qu'on ne s'est pas assez rapproché de Pôle emploi, peut-être qu'on n'a pas été assez sur les métiers en tension. Parce qu'alors des métiers en tension, il y en a partout. Le bâtiment,
ah bah y a 7
emplois sur
10,
la restauration.
7 emplois sur 10, ils ont du mal à trouver. Mais il faut des qualifications, hein. On ne met pas un couvreur ou un charpentier.
Ce serait peut-être le rôle de Pôle emploi où vous allez supprimer 800
c'est
emplois
le rôle...
l'an prochain.
Oui, je finis la question d'avant. Et donc, dans le plan d'investissement compétences, j'ai lancé il y a 15 jours un appel d'offres pour la formation des réfugiés. Cette semaine, sur la prépa apprentissage, c'est-à-dire des jeunes qui voudraient entrer en apprentissage, et vous avez vu que ça démarre très fort, notre réforme de l'apprentissage, on est déjà en progression. Et ça sauve des jeunes. Et ça...
Il faut dire qu'on part de loin, 7% des jeunes de 16 à 25 ans en France
voilà
sont en apprentissage.
Vous ne l'avez pas cité, voilà un premier résultat. On a déjà plus 45% de demande des jeunes. Ça, on ne s'attendait même pas à un tel succès, parce que ça y est, l'opinion publique commence à changer. Et on enlève tous les freins dans la loi pour l'avenir de la liberté de choisir son avenir professionnel que j'ai eu l'honneur de porter, qui est désormais promulguée, votée et promulguée. Donc, tous ces sujets-là, l'investissement pour que chacun puisse demain avoir des qualifications.
Oui, mais sur la formation professionnelle,
c'est énorme.
Dans cet article, on entend que finalement les gens se retrouvent assis à avoir des cours théoriques.
C'est le choix des régions.
En fait, ça.
Les régions, cette année, on a donné 680 millions d'euros aux régions pour qu'elles fassent plus. Maintenant, on veut faire plus innovant. La première année, ils ont fait la continuité. On verra le résultat. Je pense que c'est pas mal, mais c'est pas encore extraordinaire. Mais on a beaucoup plus devant nous parce que maintenant, on a lancé un appel d'offres pour l'inclusion, pour les plus innovateurs. Vous savez, des gens comme Thierry Marx, par exemple, qui fait cuisine mode d'emploi.
Le formidable
prend des
chef.
Jeunes, qui est un des piliers de la réforme, des supporters de la réforme de l'apprentissage et de ce qu'on fait en matière d'inclusion dans l'emploi. Il prend des personnes. On oublie leur passé. Ils ont pu faire de la prison. Ils ont pu être, pu être à la rue. On les oublie.
Mais ça, c'est Thierry Marx, il est génial.
Bienveillant.
Et ceux qui le suivent également. Je vais donner la parole dans un instant à Françoise Fressoz.
Très grande échelle, c'est ça qu'on veut.
Est-ce que vous allez imposer un malus aux entreprises, pour le coup, qui ne prendront pas assez d'apprentis ?
Alors, on l'a dit et redit. Pour l'instant, on a mis la balle dans le camp des partenaires sociaux.
Le président de la République et le candidat Macron avaient dit qu'il y aura un bonus et un malus.
Absolument.
Et on n'en entend plus parler depuis que vous êtes au gouvernement. Il y aura un bonus et un malus ou pas ?
Oui,
sans jamais répondre.
Donc, à quoi ressemble le malus ?
Alors, qu'est-ce que c'est bonus-malus ? Quel est le problème qu'il faut résoudre ?
Vous voyez, vous ne répondez pas.
Mais je pense que les Français...
Mais est-ce qu'il y aura un malus pour les entreprises qui ne prennent pas assez d'apprentis ?
C'est pas un jeu. Si vous c'est un QCM, on fait un QCM. Moi, j'essaie d'expliquer pourquoi
on
fait les choses.
On a écouté le candidat Macron pendant sa campagne.
Mais j'explique d'abord pourquoi on fait la réforme de l'assurance chômage. Parce que c'est lié à ce sujet. C'est justement parce qu'aujourd'hui, on est dans la précarisation. Et ça, nous, on ne veut pas simplement plus d'emplois, mais plus de qualité de l'emploi. Aujourd'hui, 9 embauches sur 10, c'est en CDD et en intérim. Et il y a des entreprises qui exagèrent là-dessus. Aujourd'hui, il y a les règles de l'assurance chômage. Encourage d'une part les demandeurs d'emploi parfois à refuser des emplois en CDI parce que c'est plus avantageux de ne pas le faire, on marche sur la tête, mais c'est pas la faute des gens, hein, c'est les règles. Mmh. Et puis deuxièmement, qui encourage certains employeurs, heureusement tous le font pas, ben finalement à se dire ils sont payés par l'assurance chômage et moi je vais juste l'appeler pour venir demain faire quelque chose. Et un tiers des CDD c'est une journée ou moins. Mmh. Et 80% c'est moins d'un mois.
Donc
on veut lutter contre cette précarité, d'une part en demandant aux partenaires sociaux de changer ces règles pour que finalement ça te paye plus d'aller travailler que pas travailler, c'est quand même le bon sens, quoi.
Ouais.
Et pour que les employeurs soient responsables, et on a dit depuis le début qu'il y a un système possible, c'est bonus-malus, c'est quoi ? C'est, on dit, il y a deux entreprises dans le même secteur, elles font le même métier, il y en a une qui fait du CDI et puis du CDD, de l'intérim, juste en surcroît de besoin, puis il y en a qui ont fait un système de gestion. Les deuxièmes, elles coûtent cher à tout le monde, parce qu'elles plombent de 8 milliards d'euros les comptes de l'assurance chômage, et puis elles installent dans la précarité. Donc celle-là, oui, il faut qu'elles prennent leurs responsabilités. Donc, si les partenaires sociaux, et on l'a déjà dit, mis dans la loi, donc c'est pas vrai qu'on l'a pas dit, c'est dans la loi.
Très sincèrement, si les partenaires sociaux, je n'ai pas compris s'il y aurait un malus pour les entreprises qui se comportent mal.
Je vous dis, j'ai fini ma phrase là-dessus. Si les partenaires sociaux trouvent une solution qui est meilleure et qui résout le problème, c'est-à-dire qu'on arrête de pousser à la précarité et d'enfermer dans la précarité qui n'arrête pas d'augmenter. Et moi, je crois que ce n'est pas une vie d'être précaire toute sa vie. Ce n'est pas ça notre vision du monde du travail. À ce moment-là, si leur solution marche, on la prendra. Et s'ils ne concluent pas là-dessus, on prendra nos responsabilités, donc on fera quelque chose de type bonus-malus. Après, ça peut s'appeler autrement ou pas, mais clairement, il y aura la responsabilité des employeurs.
Mais ça peut être quoi, par exemple,
Karine,
comme
on va
malus,
laisser la parole à Françoise Fressoz qui.
Si on augmente les cotisations, ça veut dire augmenter les cotisations d'assurance chômage, c'est ça un malus, de ceux qui remettent tout le temps les mêmes personnes au chômage. Parce que 7 fois sur 10, c'est la même personne qu'ils embauchent. Donc elle est capable, la personne. Et c'est toujours le même qu'on appelle. Donc ça, on peut faire quelque chose.
Françoise.
On vous sent pleine de bonne volonté, pleine d'idées de réforme. Et ce qu'on sent aussi, c'est que la société civile a du mal un peu à embrayer. Quand on a regardé, par exemple, au bout d'un an, la réforme du Code du travail, le nombre d'accords signés était assez faible. Donc comment vous analysez ça? Est-ce que le patronat est conservateur? Est-ce que les partenaires sociaux ne bougent pas suffisamment? Quel message vous avez envie de leur adresser?
Alors moi, je n'ai pas la même lecture que vous. J'avais dit dès le début que les ordonnances, la loi sur le renforcement du dialogue social, ça mettrait 1 ou 2 ans à commencer à produire des effets. Je l'ai dit,
on y est.
C'est pour ça que c'était le premier texte à l'Assemblée nationale. On y est et on a le bilan sur les 6 premiers mois, parce que les textes d'application, c'était au 1er janvier, donc on a le bilan au 30 juin. En 6 mois, il y a eu 9000 entreprises, ils se sont mis d'accord sur le nouveau comité social et économique. Donc ça, c'est positif.
9000 entreprises sur combien au total?
Sur c'est à peu près une 50 000 qui sont dans cette cible-là. Et donc, ça va augmenter puisque c'est en fonction de la date des élections. Mais il y a aussi des choses qui ont démarré fort. Par exemple, on a inscrit, et ça c'est bien pour les salariés, on a inscrit le droit au télétravail dans cette loi. Là, il y a 700 accords qui se sont créés depuis un an. Ça se développe partout, avec les tiers-lieux, avec les espaces partagés. Ça, c'est écologique. Ça permet de mieux équilibrer sa vie professionnelle, vie personnelle. Donc, c'est bien pour les salariés, c'est bien pour l'écologie. Et cerise sur le gâteau, on s'aperçoit qu'en plus, c'est très productif. Donc, c'est bien, c'est social, c'est économique, c'est écologique. Eh bien, ça, c'est un effet des ordonnances qu'on voit tout de suite. Autre chose qu'on voit, c'est qu'il y a beaucoup plus de médiation quand il y a un conflit. C'est quand même mieux d'avoir... pour le salarié.
Ça, c'est la réforme des prud'hommes.
C'est la réforme du prud'homme. Parce que, d'accord. Du coup, il a la réponse tout de suite, il a l'argent tout de suite, au lieu de, pour le salarié, aller 3 ans en procédure. Donc, il y a des premiers résultats. Et puis, il y a un résultat aussi, c'est que moi, je vais tout le temps sur le terrain. Je vois des PME, des TPE tout le temps. Ils disent, depuis les ordonnances, on n'a plus peur d'embaucher. Et c'est vrai qu'on a créé.
Ça ne se voit pas.
Mais si, ça se voit. Ça a commencé. Attends, on a baissé de 0,6%
le chômage. On est toujours au-dessus de la moyenne de la zone euro.
Oui, mais c'est pas assez. Tout ça, ça va continuer à s'amplifier. Mais on a baissé depuis un an. Enfin, il faut le reconnaître.
Alors justement, Madame Pénicaud, l'objectif central, lorsque vous défendiez les ordonnances sur le travail, c'était une baisse. Pardon, significative.
C'était la
du chômage.
Décentralisation du dialogue social.
Certes, mais vous l'aviez dit vous-même, le chômage est aujourd'hui à 9,1%. Oui. La croissance pour 2019 devrait se situer autour de 1,7%, c'est-à-dire pas très élevé. Pourquoi nos voisins font mieux que nous? C'est la première question. Et surtout, je voudrais revenir à ce qu'on disait tout à l'heure. Vous parlez finalement de contrats de confiance que vous passez avec les entrepreneurs. Mais si ces contrats ne sont pas respectés, pour en revenir aux pins de Monsieur Gattaz, 1 million d'emplois créés, disait-il, si ce n'est pas tenu, qu'est-ce que vous faites? Y aura-t-il des sanctions?
On n'est pas... Il y a toujours des sanctions sur ce qui n'est pas légal. Ça, on l'a. Mais ce n'est pas ça le sujet. Le sujet, c'est... Comment on transforme l'essai? Comment on fait? Parce que 1,7% de croissance, 2 années de suite, on ne l'a pas eu depuis 10 ans.
On
l'a pas eu depuis 10 ans, depuis la crise de 2008-2009. Donc, bien sûr, tout le monde souhaiterait que ce soit plus, mais il y a quand même matière à travailler. Et quand je dis qu'il y en a sous le pied, c'est parce qu'aujourd'hui, il y a beaucoup d'emplois qu'on n'arrive pas à créer, alors que les entreprises veulent les créer parce qu'elles ne trouvent pas les compétences. Encore, j'étais à Chartres, là, vendredi, une chef d'entreprise, 20 salariés, qui me dit « Moi, je peux créer 5 emplois, mais je ne trouve pas les compétences. »
Comment expliquez-vous cette inadéquation?
On a sous-investi depuis, ça fait 15 ans,
pour tous les gouvernements successifs insistaient en disant « On va revoir la carte des compétences, on va s'adapter au monde moderne. »
D'abord, il y avait 1 demandeur d'emploi sur 10 qu'on formait chaque année, en moyenne. Donc, ça veut dire qu'il y a beaucoup de demandeurs d'emploi qui n'ont pas les qualifications qui correspondent aux besoins.
Mais ça veut dire que les régions se sont mal organisées ou pas?
L'industrie n'a pas recruté pendant 15 ans. L'industrie a perdu 1 million d'emplois. Tout le monde a oublié de se dire que ça existait. Mais ça repart, bah, évidemment, qu'on ne trouve pas les soudeurs, qu'on ne trouve pas... Il faut les former, et d'où la réforme de l'apprentissage et de la formation. Le bâtiment repart, il n'y a pas assez de qualifications. C'est pour ça qu'on va former aussi bien les jeunes, les seniors, les réfugiés, tout
mais
le monde.
Une pourquoi supprimez-vous 800 postes à Pôle emploi? Ça, c'est une vraie question, Madame Pénicaud. Pourquoi, dans le projet de loi de finances de 2019, il est prévu, je l'ai lu, de supprimer 800 postes à Pôle emploi?
800,
je voudrais comprendre, par rapport à ce que vous venez de dire, la finalité de cette mesure.
En équivalent temps plein, c'est 400 sur 50 000 emplois. Donc, pourquoi? Parce que aujourd'hui, Pôle emploi, comme tous les opérateurs du secteur public, travaille sur sa propre efficacité. Et notamment, le numérique permet aussi de gagner beaucoup de tâches administratives. Vous savez, il y a énormément de dossiers. Il y a plusieurs millions de personnes chaque année qui passent par Pôle emploi. Parce que Pôle emploi place aussi près de 3 millions de personnes par an. On voit le chômage, mais il y a aussi tous ceux qui ont des questions. Donc, il y a beaucoup de travail administratif qui est en train d'être allégé, puisqu'on on travaille beaucoup plus en numérique. Donc, en fait, Pôle emploi va économiser, c'est-à-dire plus de postes, ce qui permet, du coup, d'avoir un accompagnement plus personnalisé de ceux qu'on a besoin. Tout le monde n'est pas égal devant le chômage. Certains, ils ont juste besoin qu'on les mette en relation avec l'offre, puisqu'ils ont une compétence, une qualification dans un bassin d'emploi qui marche. Il y en a d'autres qui ont besoin de beaucoup plus d'accompagnement, et notamment d'aller vers les, par exemple, vers l'emploi, ce que j'appelle l'emploi tremplin, qu'on va augmenter dans le budget. C'est par exemple l'insertion par l'économique. À Toulouse, il y a une entreprise d'insertion par l'économique, dans le Nord-Pas-de-Calais, j'en visite tout le temps, qui vont aider des demandeurs d'emploi en lourde difficultés, de reprendre pied petit à petit au travail travaillant à récolter des vieux vélos, de l'électroménager, des jouets, de les recycler et les mettre sur le travail. Il y a des résultats formidables dans l'insertion par l'économique, mais il faut ce tremplin, et pour ça, il faut plus d'accompagnement à Pôle emploi et aussi dans les associations. C'est pour ça que dans mon budget, j'augmente beaucoup les entreprises adaptées pour les personnes en situation de handicap et l'insertion par l'économique pour que chacun ait la chance de monter dans le train de la croissance. Et pour ça, il faut tous ces tremplins.
La ministre du Travail, Muriel Pénicaud, est l'invitée de Questions politiques ce dimanche.
France Inter, Ali Badou, Questions politiques.
Question de Françoise Fressoz.
C'est pour revenir à mon leitmotiv depuis le début. Quelle année, à partir de quand, vous allez vous dire, avec ma réforme du Code du travail, formation professionnelle, apprentissage, je vais avoir des résultats significatifs? À partir du quand vous pouvez rassurer les Français sur l'inversion de la courbe du chômage?
Alors, on a amorcé l'inversion de la courbe. Et on va progresser année après année. C'est aussi les lois PACTE, c'est aussi les lois sur le développement des entreprises, parce que faut bien comprendre que les emplois, ils se créent principalement dans les petites et moyennes entreprises. 50% des emplois, c'est dans ces PME, ces TPE, qui ont souvent été négligés dans l'histoire politique française, et c'est elles qui créent le plus d'emplois. Donc, ce qu'on fait à travers les ordonnances, les lois PACTE et l'apprentissage pour aider ces PME à grandir, c'est essentiel, parce que il faut aussi
vous
se dire que l'emploi est partout
mais
sur
à quel
sur
moment
le territoire.
On va voir le résultat? Alors, parce que c'est ça que les Français demandent.
Le résultat, c'est pas un truc magique. Il y a un jour J. Je pense que chaque année.
Non, mais l'objectif, c'est 2022, 7% de chômage.
On a cette ambition. Donc, c'est une ambition très forte.
Vous y croyez?
Moi, j'y crois, parce que je vois qu'on en a encore sous le pied. Et quand je dis qu'on en a sous le pied, on en a sous le pied dans la transformation, par exemple, des compétences. Mais je vois aussi l'énergie. Moi, c'est mon tour là que j'ai fait dans le cadre du plan pauvreté sur l'inclusion dans l'emploi, la quinzaine de sites où je suis allée. Ce qui m'a frappé, c'est le nombre d'entrepreneurs, PME, filiales de grandes entreprises, d'entrepreneurs artisans qui avaient envie de se mobiliser pour l'emploi, pour leur territoire, auprès des associations, et on a un très beau tissu associatif en France. En fait, moi, je crois pas... Vous savez, moi, je viens du terrain, vous l'avez rappelé. Toute mon histoire, c'est de partir du terrain, et puis après, voir comment on peut... Ça impacte.
Pragmatisme.
Pour ça que je passe mon temps sur le terrain, parce que j'ai besoin tout le temps... Et on a besoin d'écouter, de continuer à être au pouls des territoires et des PME et des salariés. Eh bien, ce que je vois, c'est qu'il y a quand même de l'énergie en réserve. Et c'est en faisant tout ça, on est dans entreprise par entreprise, on est dans tout le monde à se mobiliser. Nous, la loi, elle crée le cadre. Elle crée ce qui autorise. Mais moi, je suis, par exemple, sur l'apprentissage.
Mais vous ne répondez pas,
tout le monde
pas,
disait
Françoise.
Que c'était impossible. J'y viens, parce que c'est une vision de la politique.
Oui.
L'apprentissage, tout le monde disait c'est impossible, tout le monde a tout essayé. Franchement, honnêtement, tout le monde disait il ne se passera rien. On n'est même pas encore eu le temps de publier les décrets. On va le faire dans les semaines qui viennent. On a tellement travaillé sur ce sujet avec tous les acteurs du terrain qu'il y a de la confiance. Il y a des jeunes et des familles qui commencent à réaliser que l'apprentissage, c'est les mêmes diplômes, plus une expérience, plus une rémunération. La demande augmente. Mmh. Les entreprises augmentent leur offre. Eh bien, voilà, ça va sauver des milliers de jeunes et des milliers de TPE, PME qui ne trouvent pas les compétences. Donc, c'est tous ces sujets-là. Mais il ne faut rien lâcher, d'une part. Mais il faut tout embrasser, mais en partant toujours du terrain, du terrain, du terrain.
Magie de la parole politique pour ne pas répondre
non,
à la question de Françoise Fressouze.
C'est l'action, c'est une vraie politique.
Karine Bécard, elle nous a demandé un horizon, pas une date précise, vous n'avez pas répondu.
La date magique, le chiffre magique, franchement...
Il n'y a pas de chiffre magique et c'est vous qui avez annoncé 7 millions de chômeurs en 2022, c'est le candidat et le président Emmanuel Macron.
Non, pas 7 millions de chômeurs, quelle horreur. 7%. Je voudrais qu'on parle aussi de l'assurance chômage. Vous en avez juste parlé un tout petit peu tout à l'heure, mais il y a des négociations importantes qui vont durer 4 mois et qui commencent là. L'assurance chômage, c'est quand même ce qui permet à des salariés qui ont la malchance de perdre leur emploi, d'être protégés financièrement et d'avoir 2 ans pour trouver le temps de retrouver, on les aide en fait à retrouver un emploi. Je voudrais savoir si on va rester dans cette philosophie-là, est-ce que ça va rester, est-ce que ce système de solidarité va rester ou est-ce qu'il est menacé aujourd'hui ?
Noël Pénicaud.
Je pense que l'assurance chômage fait partie du modèle social de solidarité dont on est fier et qu'il faut conserver.
On
l'a vu parce que quand on se compare à d'autres pays, même européens, la crise, finalement, on a plutôt mieux résisté à la crise du point de vue protection des demandeurs d'emploi parce qu'on a un système d'assurance chômage qui est robuste et qui protège plutôt mieux que les autres pays. Alors quand on est chômeur, on se dit toujours que c'est pas assez, mais quand on se compare
qui protège
à d'autres
trop
pays,
bien.
Non.
Vous allez serrer la vis aux chômeurs les plus aisés.
La question, c'est le montant des indemnités. Est-ce qu'elle va changer et la durée de ces indemnités.
Pour votre première question, oui, on garde un système d'assurance chômage. Par contre, c'est notre responsabilité collective, avec les partenaires sociaux, de veiller à ce qu'il soit robuste dans le temps. Par contre, il y a des choses qu'il faut corriger, parce que parfois, les négociations des partenaires sociaux aboutissent à des effets voulus et des effets non voulus. Et le point principal aujourd'hui, c'est cette précarisation de l'emploi qui, pour moi, pose problème parce que, encore une fois, 9 embauches sur 10 en contrat précaire, c'est pas la vision du monde du travail qu'on propose et qu'on souhaite et que les salariés souhaitent et que les Français souhaitent. Donc ça, c'est le cœur de la réforme. Alors là où il y a quelque chose qui est vertueux, c'est que s'il y a moins de précarité pour les salariés, il y a plus de CDI, qu'on ne responsabilise plus les employeurs pour qu'il y ait une gestion de ressources humaines avec plus de CDI, en même temps, ça va permettre de faire des économies, parce que ce qui coûte cher l'assurance chômage, c'est la précarité. Et pourquoi c'est important de faire des économies ? On propose 1 milliard sur 35 milliards par an, c'est pas énorme. Pourquoi ? Pour qu'il soit robuste dans 10 ans. Parce que nul ne sait s'il n'y aura pas une crise dans 10 ans. Il faut que notre système il soit robuste. Et aujourd'hui, il est garanti à hauteur de 35 milliards d'euros par l'État. Donc il faut redonner des marges de manœuvre, mais il faut surtout qu'on lutte contre la précarité. On veut plus d'emplois. Et plus d'emplois.
Ça, on l'a entendu. Est-ce que les allocations chômage doivent baisser pour les chômeurs les plus aisés ?
Alors, le gouvernement n'a pas proposé de dégressivité. Ça n'est pas venu du gouvernement.
Ce qu'on a dit, Édouard Philippe, quand même, l'a clairement dit dans l'émission.
C'est pas dans la proposition du gouvernement. Il a répondu à une question. Ce qu'on dit, par contre, c'est ce qu'a dit le Premier ministre et ce qu'on met dans le document de cadrage qu'on a envoyé aux partenaires sociaux, c'est que tout le monde n'est pas égal devant le chômage. C'est pas pareil d'être au chômage si vous avez une super qualification dans un domaine qui marche vachement bien et qu'en fait il y a de l'emploi et en CDI et très bien payé.
Oui, d'accord.
Mais alors quelle est votre position
à
vous ?
À celui qui est qui a pas de qualification, le taux de chômage des personnes sans qualification c'est 18% de taux de chômage et c'est eux qui ont le plus les emplois précaires.
Donc finalement dégressivité.
On dit que les personnes sont pas égales devant le chômage, or les règles sont les mêmes. Et on leur a dit réfléchissez à ça. Et on va voir ce qu'ils font.
Donc vous y êtes favorable ?
Non, mais c'est juste. Je suis favorable à ce qu'on regarde si c'est normal d'avoir les règles les mêmes pour tout le monde quand la situation n'est pas la même pour
tout le monde. Donc il faut être ferme avec les chômeurs les plus aisés au moment même où vous avez donné 6% de pouvoir d'achat supplémentaire aux 1% aux Français les plus riches.
Non, mais attendez, le sujet. À quoi ça sert l'assurance chômage ? À protéger, mais le but c'est de repartir le plus vite au travail. L'assurance chômage, le but c'est que ce soit le plus court possible entre deux jobs. C'est ça le but. Donc il faut aussi que ça encourage ceux qui peuvent aller au travail, que ça les encourage à aller au travail. Oui.
Françoise Fressouze.
Le MEDEF a proposé un système complètement différent en disant une allocation de base qui est financée par l'État, la CSG, puis après un système assurantiel avec une règle d'or qui fait qu'on doit être à l'équilibre. Ça vous irait, vous, comme architecture ou pas ?
Alors, ils vont en parler entre partenaires sociaux, puisqu'il faut que ça soit une proposition des partenaires sociaux. Donc, je ne sais pas ce que vont répondre les organisations syndicales et les autres organisations patronales. De toute façon, il y a un sujet qu'on a mis dans le document de cadrage, c'est l'articulation entre le système assurantiel, c'est-à-dire on cotise et ça nous protège, puisque en cas de coup dur, on a l'assurance chômage, qui est une partie de l'assurance chômage, et la partie, j'irais, de solidarité. Par exemple, l'allocation de solidarité, l'ASS, ça, c'est l'État qui le paye. C'est donc l'impôt. Quand on dit l'État, c'est l'impôt. En gros, soit c'est l'impôt, soit c'est les cotisations. Hein, c'est ça. Donc, si c'est aux partenaires sociaux de dire s'ils préfèrent modifier le système assez radicalement là-dessus ou plutôt améliorer le système existant.
Jeff,
l'un des effets de vos ordonnances sur le travail, c'est les recours aux prud'hommes qui ont diminué, vous en félicitez d'ailleurs, de 15% en un an. Pour vous, donc, c'est un progrès. Pour les syndicats, pas du tout, parce qu'ils considèrent maintenant que les salariés négocient, je cite Pascal Pavageau, par exemple, le leader de FO, avec un pistolet sur la tempe, puisque les indemnités, on le sait, sont plafonnées. Là encore, où est la contrepartie, Madame la ministre du Travail, quand les entreprises se sont-elles mises à embaucher depuis qu'elles ont plus de facilité à débaucher ?
Alors, Pénico.
Oui, l'année dernière, les entreprises ont créé 288 000 emplois nets, surtout en fin d'année. Et cette année, on est sur une tendance 150 000, 170 000 de création nette. Donc oui, les entreprises embauchent plus, c'est factuel. Elles créent plus d'emplois. Après, on fait pas mal de sondages. On demande aussi aux salariés ce qu'ils en pensent. Eh bien, le fait que il y a un barème, c'est-à-dire qu'on sait en gros le minimum et le maximum qu'on peut obtenir. Eh ben, il y a beaucoup d'entreprises et de salariés qui disent il y a un recours à la médiation, qui préfèrent avoir une négociation. Vous savez, pour un salarié qui attendait 3 ans, comment il faisait pendant 3 ans? Il était licencié? Fallait être drôlement riche pour attendre 3 ans le résultat des prud'hommes.
Ouais.
Donc, je pense qu'aujourd'hui, la négociation, la médiation, c'est mieux. Moi, je crois plus à se mettre d'accord à la logique du contrat qu'à la logique du conflit.
Il nous reste quelques minutes.
Le juge reste...
Muriel Pénicaud, il y a encore beaucoup de questions à vous poser. Juste autre question concernant le modèle social français. La réforme des retraites s'engage à pas prudent. Beaucoup de précautions prises sur ce dossier. Est-ce que vous pouvez prendre d'ores et déjà l'engagement qu'il n'y aura pas de perdants dans la réforme des retraites ?
Le montant global qui fait 14% du PIB, hein, donc c'est un des pays où c'est le plus élevé, ne sera pas modifié. Après, aujourd'hui, il y a plein de perdants. Ce que je veux dire, c'est que le système avec nos 42 régimes, comme Jean-Paul Delevoye l'a très bien expliqué, avec Agnès Buzyn, c'est très injuste. D'ailleurs, tout le monde a l'impression que l'autre a un système plus juste. C'est vrai ou pas vrai, mais tout le monde a cette perception et il y a parfois des vraies injustices, et y compris des injustices selon votre déroulement de carrière, qui touche par exemple beaucoup les femmes. Si vous commencez par le temps partiel et après le temps plein, vous n'avez pas la même retraite avec le même nombre d'heures travaillées que si vous commencez par le temps plein et après le temps partiel. Donc c'est bourré de choses injustes. Donc il faut que demain, ceux qui cotisent, qui ont la même carrière, les mêmes cotisations, ils aient la même retraite. Et puis, il faut aussi protéger ce qu'on appelle les carrières plus fragiles, hachées, notamment les femmes qui arrêtent pour s'occuper des enfants, les chômeurs, les personnes qui vont avoir un problème de santé. Il faut aussi que le système de solidarité prévoit tout ça. C'est pour ça que cette concertation est longue, et que maintenant, il va y avoir un deuxième temps qui s'ouvre et qui est sur... sur les mécanismes, mais on prend le temps parce que c'est un sujet qui concerne tous les Français.
Françoise.
Le grand pari d'Emmanuel Macron, c'est de dire je veux favoriser l'égalité réelle, je veux favoriser la mobilité. Et on sent quand même qu'il y a une difficulté de la part de certains partenaires sociaux d'entendre le message parce que on a plutôt l'impression, ils ont plutôt l'impression qu'il y a une remise en cause de ce qu'ils appellent les droits acquis. Donc comment développer une pédagogie, comment convaincre que ce que vous faites sera effectivement au bout du compte plus juste que le système actuel ?
Muriel Pénicaud.
Alors d'abord, les paramètres qui vont définir tout le détail, ils vont être discutés avec les partenaires sociaux dans les mois qui viennent. Comme le commissaire Jean-Paul Levoye va continuer ses concertations, il ouvre cette deuxième partie où on va discuter tous les détails. Mais c'est là où c'est un lien aussi avec la politique qu'on mène avant le travail, c'est qu'une partie des injustices, c'est l'injustice avant dans les salaires. Par exemple, sur les salaires des femmes. Dans la loi pour la liberté de choisir son avenir professionnel, on se donne les moyens d'enfin faire l'égalité. Parce qu'aujourd'hui, il faut savoir que les femmes, même en ayant le même travail, alors déjà, elles ont des carrières plus hachées, à même travail, elles ont 9% d'écart de salaire. C'est absolument scandaleux et injustifiable dans une république sociale qui dit liberté, égalité, fraternité. Et 25% d'écart sur la carrière, ce qui donne, comme ils ne sont pas les mêmes carrières, 37% d'écart à la retraite. Donc il faut aussi travailler en amont. Il faut travailler à la fois sur les retraites et à la fois à l'amont. Et dans quelques semaines, je vais annoncer le mécanisme qui a été défini par la loi, mais le mécanisme détaillé avec les partenaires sociaux sur comment on va réussir cette égalité homme-femme qui, par exemple, est un des gros sujets en amont de la retraite. Et donc on travaille évidemment avec une vision d'ensemble sur ce sujet.
Vous êtes toujours convaincante dans
l'énergie
qu'elle y met. Dans l'énergie que vous mettez, mais je n'ai toujours pas ma réponse sur comment aller convaincre les Français que le système de protection sociale que vous voulez entièrement rebâtir sera beaucoup mieux.
Parce que c'est quand on va montrer concrètement, aujourd'hui vous êtes fonctionnaire ou vous, de tel ou tel ministère, parce que c'est pas pareil selon les ministères, ou vous êtes agriculteur, ou vous êtes personne, voilà, vous êtes une femme qui a arrêté, quand tous les périmètres vont être dits, ben ça deviendra concret. C'est trop tôt, ils sont pas encore définis. C'est une discussion qui va avoir lieu avec les partenaires sociaux. Il faut beaucoup de simulations pour vérifier qu'effectivement tout le monde s'y retrouve.
Karine Pujaf.
Alors il reste très peu de temps, il reste 4 minutes. Je voudrais vous poser des questions d'actualité qui ne sont pas forcément de votre ressort de compétences précises, mais on a beaucoup entendu parler cette semaine de la burqa. Est-ce qu'il faut maintenir en France l'interdiction du port de la burqa dans l'espace public, puisque l'ONU s'interroge et éventuellement son comité des droits de l'homme pourrait s'ingérer dans les affaires de la France et décider qu'il faut que cette interdiction cesse?
Moi, je pense que la France actuelle a une position équilibrée. Mmh. La liberté religieuse est entière. Moi, j'ai beaucoup travaillé avec les réseaux de femmes, les sujets de femmes. Vous savez, la différence entre le choisi et le subi, c'est quelquefois compliqué quand vous avez 14 ans et que dans votre famille, tout le monde porte la burqa. Donc, je pense que la France a une position équilibrée, qui est d'ailleurs aussi une question de sécurité, on l'a vu récemment. Voilà, on est à visage découvert. C'est ça la démocratie. Il n'y a pas à avoir peur d'avoir le visage découvert. Et celles qui malheureusement pensent que ça les protège, c'est tout le travail que fait Marlène Schiappa avec Nicole Belloubet sur le harcèlement de nos rues. Parce que ce qui est scandaleux, c'est qu'on ait besoin, qu'on croit qu'il faut une burqa pour se protéger dans l'espace public. C'est dramatique. Ça, c'est pas la promesse républicaine. Donc je crois qu'il faut continuer à aider les jeunes femmes et les jeunes filles à être libres, libres de leur choix. Mais la vraie liberté, pas celle qui est un peu subie.
Alors votre propos est très clair. Est-ce qu'Emmanuel Macron s'exprime suffisamment et suffisamment avec force sur les sujets régaliens et en particulier sur les questions de l'islam ?
Eh bien, il a annoncé qu'il y aurait un travail important à fait sur ces sujets.
Qui est repoussé tous les 6 mois.
Toutes les religions sont respectées dans une laïcité. Et donc dans notre démocratie, chacun a la liberté de croire ou de ne pas croire et d'avoir telle ou telle religion. Donc l'islam a sa place en France. Après, l'islamisme, le fondamentalisme, qu'appelle à la haine ou au non-respect des règles de la République, ça c'est autre chose. La République primera toujours.
Jeff, puis Françoise.
Pardon, moi je voulais revenir un petit peu sur les retraites.
Non, Jeff, on avance dans les questions d'actualité. Françoise Fressoze.
Alors l'autre question d'actualité, c'est l'annonce d'Anne Hidalgo, la maire de Paris aujourd'hui, qui annonce qu'elle va faire un plan pour les sans-domicile fixe et qu'elle est prête à accueillir dans sa mairie, à l'hôtel de ville, une centaine de femmes sans-domicile fixe. Est-ce que vous saluez cette initiative et est-ce que l'État pourrait en faire autant?
Je pense que le plus important, c'est de trouver des solutions à grande échelle sur les sans-domicile fixe. Parce qu'il y a trop... Il y a encore des femmes et des enfants qui dorment dans le bois de Boulogne. Hein. Et ça, on n'a pas forcément assez de place. Et on peut...
L'État et la ville se renvoient la balle. Qui est responsable?
C'est plutôt l'aspect solidarité sociale et plus du rôle des départements et des communes. Mais on ne peut pas, évidemment, s'en désintéresser. Donc ça fait partie un peu, j'allais dire, du pacte social qui est nécessaire entre les collectivités territoriales et l'État, même si c'est plus elles qui sont responsables. Je pense aussi et c'est là où tout est lié, lorsqu'on donne un travail à quelqu'un, il peut se payer un logement. Et donc, c'est pour ça que dans le programme d'investissement dans les compétences, on a un programme spécifique sur l'inclusion des plus vulnérables. Et moi, je veux faire un programme spécifique pour ces femmes. Il y a des associations de soutien. Vous savez, une femme qui porte sa famille à bout de bras, qui a tout traversé, elle a une force extraordinaire. Donc, il faut l'aider le plus possible.
Mais est-ce que c'est une bonne idée que l'hôtel de ville...
L'hôtel de ville lui-même ne pourra pas accueillir...
symboliquement accueille une centaine de femmes sans domicile fixe.
Le symbole, c'est pas le plus important. L'important, c'est est-ce que l'hôtel de ville...
Souvent.
Oui, enfin, quand le symbole cache la réalité, non. S'il y a un vrai plan et que plus personne dort dehors dans Paris, à ce moment-là, je saluerai y compris le symbole. Non, le plus important, c'est qu'il n'y ait plus personne dehors.
Toute autre chose, cette semaine est paru le livre de Marc-Olivier Fogiel, Qu'est-ce qu'elle a ma famille, où il parle de ses deux petites filles qui sont nées grâce à la GPA. Il dit la chose suivante, c'est l'évidence que les enfants nés de la GPA doivent être protégés. C'était un engagement de campagne d'Emmanuel Macron, il le disait sur France Inter dans l'émission d'Ali Rebéi. Qu'est-ce que vous retenez de cette histoire-là? Est-ce qu'elle vous choque? Est-ce que vous pensez, vous aussi, que l'administration et les pouvoirs publics doivent accompagner les parents qui ont recours à la GPA?
Alors, rien ne me choque. Je crois que au sens... Non, mais si, au sens, je pense que le désir de parentalité, c'est quelque chose d'assez profond dans la vie. ça concerne les femmes, les hommes, hétérosexuels, homosexuels. Voilà, c'est, moi j'ai eu la chance d'être mère de deux enfants et je comprends, et j'ai des amis hétérosexuels et homosexuels pour lesquels ça a beaucoup d'importance.
Donc des mères porteuses.
Mais le premier
France,
sujet, c'est d'abord la PMA. Parce que le débat s'ouvre, donc Agnès Buzyn va animer avec le Parlement
ce
débat.
Ça on le sait, mais la question ne portait pas sur la PMA, elle portait sur la GPA et ce cas très spécifique. Il faut accompagner les parents quand ils reviennent en France avec des enfants nés de la GPA.
Alors je pense que de toute façon, il faut créer le droit à la PMA, ce qui est déjà tout un débat parce qu'il y a une partie de l'opinion publique.
La GPA, Muriel Pénicaud, c'est la question.
Je pense qu'il faut évidemment, le fait que soit autorisé en France est un sujet qu'on peut débattre, mais le fait de reconnaître les enfants, oui bien sûr, aucun enfant doit être mis de côté.
C'était très clair. Merci Muriel Pénicaud, l'émission se termine, qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter ?
Du travail.
Du travail. Je suis sûr que vous en aurez toujours la semaine prochaine. Merci à Alexandre Gélardi, à toute l'équipe technique de Questions Politiques, merci à tous les trois et je vous dis à dimanche prochain.